affolance, c'est qu'ils sont prêts à dépenser des sommes astronomiques pour entraver notre grève, tout simplement.
Ceux qui appellent en galère, les jeunes totalement
et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Bonsoir, vous êtes bien à l'écoute du Canu Info du vendredi, bien sûr, puisque nous sommes vendredi et vous vous demandez ce dont on va parler. Eh bien, on va commencer par le local avec un petit appel au collectif Intermède qui organise une soirée ce soir.
Et alors, après avoir été très content de réussir à faire une insert téléphonique, on va vous parler d'une expulsion d'un squat de bronc qui a eu lieu hier soir et du coup d'un rassemblement qui a eu lieu à la mairie aujourd'hui.
Et du coup, après, on va vous parler de la grève à la poste centrale de Lyon.
On va ensuite passer à l'usine Centro Motor.
Et après, direction le National. Et notamment, Bernard Cazeneuve se retrouve à Calais. Et donc, on va vous parler de ce que ça crée dans la jungle, entre guillemets.
Et en rapport direct, Sophie nous présentera le nouveau projet de loi contre l'immigration.
Et sans rapport aucun, en tout cas, il n'y en a pas. À notre connaissance, mais on va vous parler de Veolia et peut-être qu'il y a un lien par contre avec le gaz de schiste.
En tout cas, il y a un lien avec l'international et c'est comme ça qu'on va passer à l'augmentation des actes racistes en Allemagne.
Puis le Congo-Brazzaville, nous verrons voyager avec Sophie.
Et on va parler du Pérou.
Et enfin de l'Algérie, toujours avec notre super reporter qui va par mons et par vous vous expliquer ce qui se passe là-bas pour peut-être finir, si on a le temps, sur le dernier rapport de l'Euromed sur Israël et sur le fait qu'on n'en parle pas assez.
Et on finira bien sûr par l'agenda.
Et donc pour commencer, je crois qu'on a en direct de notre staff technique le groupe Intermed qui se trouve à l'atelier des canulars.
Et allô, ils doivent nous entendre en principe. Vous nous entendez?
Oui, oui, je vous entends tout à fait, ouais.
Parfait. Et tout le monde nous entend ici, évidemment.
Ok. Et ben c'est parti alors.
Et ben voilà, c'est parti. Alors est-ce que donc je sais pas, vous faites une soirée en fait avec votre collectif. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre collectif?
Ouais, tout à fait. Je peux vous présenter le collectif. On s'appelle bien entendu Intermed. On est un collectif, composé de travailleurs sociaux et dont la base, est plutôt issue en fait du secteur médico-social. On essaie nous de monter des outils de réflexion en fait centrés sur les différentes pratiques d'accompagnement. Notre idée, c'est d'interroger en fait la pertinence des accompagnements qu'on met en place chacun de notre côté sur le terrain auprès des personnes accompagnées. Pour rentrer un peu plus en détail et en précision, donc on se pense comme un laboratoire d'expérience. On essaie d'analyser en fait tous les petits gestes du quotidien qui tissent le travail d'accompagnement en fait au jour le jour.
Et donc concrètement, les ateliers Intermed, ça se passe comment? Vous avez déjà fait quoi?
Moi, je vous entends super mal. Donc concrètement,
vous avez fait quoi comme atelier Intermed avant?
Donc on a fait plusieurs petits. Enfin, on a fait deux ateliers l'année dernière. Un atelier écriture où on avait demandé à chacun de ramener un petit objet qui lui rappelait en fait son quotidien en lien avec le thème de la trace et de la traçabilité dans le secteur social. Et on a organisé une deuxième soirée de projection, on va dire comme ça rapidement, autour des questions de handicap avec un S et des sexualités avec un S aussi. Voilà, là du coup ce soir on fait notre rentrée. On a plein d'idées. En l'occurrence, on voudrait cette année monter éventuellement un café du social destiné aux travailleurs sociaux toujours, mais aussi aux personnes en fait qui sont concernées par ces problématiques-là, qu'ils soient usagers ou familles d'usagers ou amis d'usagers, ou peu importe. Voilà, on voudrait monter un jeu collaboratif autour des questions de tutelle curatelle et des majeurs protégés. Enfin, on a plein de petits projets comme ça. Voilà, sachant que notre spécificité intermède, c'est de rechercher des outils de médiation qui permettent en fait à la fois d'avoir un débat et de réfléchir en fait une pratique quotidienne, une expérience quotidienne.
Et du coup, pour comprendre un peu à qui est-ce qu'ils s'adressent ces ateliers, est-ce que vous adressez aux travailleurs sociaux, à tout le monde, aux personnes, comme vous dites, usagers, du coup des personnes qui vont utiliser ces services sociaux qui vont être proposés par les collectivités ou des associations?
Bah, je pense qu'en fait, ça s'adresse aux uns et aux autres, c'est-à-dire qu'on n'a pas, nous après, donc on va pas nier que effectivement notre départ de réflexion à nous en tant qu'individu, c'est une base de réflexion qui est située en fait dans une pratique professionnelle. Donc ça, c'est clair que c'est notre base de départ. Après, ça n'empêche pas qu'on puisse travailler, réfléchir et discuter avec tout un chacun et s'investir en fait, parce qu'il n'y a pas de ligne de fracture selon nous entre être usager ou voilà, c'est-à-dire qu'on est toujours susceptible de toute façon soit de connaître des personnes dans un environnement qui sont soit pris en charge dans un système d'accompagnement, et nous-mêmes, de toute façon, on sera peut-être destiné aussi à pouvoir bénéficier de ces services-là. Donc il n'y a pas de ligne de fracture comme ça. Voilà, on n'est pas parti là-dedans.
Et du coup, ce soir, c'est plus une soirée de présentation. Il y a un objectif de construction un peu collective de l'année à venir.
Donc c'est une présentation, mais une présentation un peu particulière, c'est-à-dire que on veut se présenter nous en rentrant dans le vif du sujet, c'est-à-dire en mettant en place directement un outil de médiation. Donc on a essayé de développer un concept. Un concept intello-gustatif, c'est-à-dire qu'on va confectionner tous ensemble une soupe et on va réfléchir en fait autour de qu'est-ce que c'est que faire une soupe tous ensemble.
Voilà. Et ça, c'est maintenant, alors, au 91 rue Montesquieu, à l'atelier des canulars.
Voilà, c'est ça.
Dans le 7e, vers Guillotière.
Ben, merci à vous.
Et bonne soirée. Merci beaucoup.
Merci, bonne soirée.
Merci de venir après.
Salut.
Merci beaucoup.
À la prochaine.
Et du coup, vous tous qui écoutez Radio Canu, vous pouvez donc vous rendre dès à présent à l'atelier des Canulars, 91 rue Montesquieu, pour rencontrer ce fameux collectif Intermède et donc participer à cette soupe intellectuelle et, on l'espère, pratique autour des questions du social et de ses prises en charge.
Et on en profite juste pour rappeler que pour ceux qui veulent réfléchir ces questions, il y a bien sûr le site Rebellion au niveau local qui peut proposer à un moment des informations sur ce qui se passe comme mouvement, comme réflexion autour de ça. La soirée a été reliée sur Rebellion. Et aussi le site nébuleuse.info qui compile des articles, des réflexions et des luttes dans le travail social. Et cette soirée a été aussi relayée par le site nébuleuse.info, donc rebellion.info. Et nébuleuse.info.
Et on vous insiste vraiment pour Nébuleuse, à taper nébuleuse.info pour trouver réellement le site, puisque du coup, si vous ne tapez que Nébuleuse, vous allez avoir beaucoup d'informations scientifiques, mais peu d'informations sur le travail social.
Suite à cette page de pub à peine déguisée, on quitte Lyon-Centre pour aller à Bron, où Hier, c'est beaucoup moins drôle d'ailleurs, une soixantaine de personnes ont été expulsées d'un immeuble du quartier de Bronterayon. Alors cet immeuble et d'autres alentours étaient occupés depuis plus d'un an par ces demandeurs d'asile qui normalement, en fait, en tant que demandeurs d'asile, devraient bénéficier d'un hébergement en centre d'hébergement de demandeurs d'asile. Et du coup, ces familles ont dormi la nuit dernière dehors et devant leur ancien squat et dans les cages d'immeubles, des immeubles aux alentours. Parce que, bah, bien sûr, on avait posté des vigiles pour empêcher ces familles de retrouver un autre logement. Ce matin, un rassemblement était donc organisé devant la mairie par des militants associatifs. Une cinquantaine de personnes se sont réunies devant. La mairie a envoyé son super responsable des relations publiques et puis un adjoint au maire qui a tenu un super discours comme quoi, comme c'était la République qui avait expulsé les personnes, eh ben, c'était pas logique que la République reloge ces personnes. Et en plus, c'était un bâtiment complètement insalubre. Du coup, c'était tout à fait normal que ces personnes dorment à la rue. Donc ce soir, il y a encore une trentaine de personnes qui n'ont pas trouvé de solution. Et ça rappelle bien sûr la situation de l'année dernière, où juste avant la trêve hivernale, il y a quasiment 600 personnes qui ont été mises à la rue. Donc on espère que là, c'est pas le début d'un remake super de l'année dernière.
Bah c'est ça, parce que c'est quand même un rassemblement qui a été, sinon court-circuité, au moins abrégé par des militants associatifs, certes, mais du coup qui n'ont pas voulu tenir un rapport de force très fort devant la mairie. Et du coup, la question se pose devant quand même de nombreux squats et autres qui peuvent être sur une scène d'expulsion, sachant que, voilà, qu'on rappelle que la trêve hivernale, même si elle ne protège pas les gens des expulsions, les protège un tout petit peu. En tout cas, qu'il y a une sorte de opinion publique, on n'a qu'à dire comme ça, qui réagit plus durement pendant les périodes de froid vis-à-vis des expulsions. Alors, pour changer de sujet, même si du coup on vous invite à toujours être vigilant sur celui-là, on va vous parler de la grève de la Poste qui a lieu en ce moment. Alors, on vous relaye souvent les grèves, mais là, c'est assez chouette que ça se passe à Lyon. Et ce qui est assez chouette, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se mobilisent autour de la grève de la Poste de Lyon Centre, qui est un mouvement qui s'élargit de jour en jour. Alors, il faut savoir que depuis le 19 octobre, du coup, il y a des factrices et des facteurs de Lyon Centre qui sont en grève illimitée, ce qui est assez rare. Ils luttent donc contre le projet de réorganisation en cours, qui prévoit des suppressions d'emplois qui vont considérablement aggraver leurs conditions de travail déjà dégradées, ainsi que la qualité du service dû aux usagers, sachant que quand même ça fait quand même plusieurs années que en France la Poste se voit de plus en plus privatisée et que ça pose des réelles questions. Alors on peut toujours poser la question de qu'est-ce que c'est qu'un service public, mais là quand des emplois sont grandement menacés, ça pose d'autres questions, et quand aussi un service qui est quand même tous les envois postaux est menacé, ça pose aussi d'autres questions. Et il faut savoir que quand même que malgré un préavis de grève qui est en cours du coup depuis le 19 octobre, la Poste met en place sa nouvelle organisation, du coup elle fait fi du préavis de grève qui avait lieu le 19 octobre et depuis le 20 octobre essaie de mettre en place sa nouvelle organisation. Les agents grévistes se heurtent donc à un mur. La Poste préfère rester dans la logique de conflit plutôt que dans celle de la négociation. Pire, la direction préfère dépenser de l'argent sans compter pour casser la grève, comme par exemple des huissiers de justice, mais aussi des remplacements des grévistes par des entreprises privées, des pressions sur les personnels non grévistes, plutôt que d'écouter son personnel en souffrance. Donc du coup, ce que réclament les grévistes, notamment à travers le syndicat Sud, mais aussi d'autres grévistes, c'est du coup assez de la sécabilité et des suppressions de quartiers, assez de la précarité, assez des heures à rallonge non payées, assez des intimidations et sanctions sur le personnel. Donc les factrices et les facteurs de Lyon Centre appellent tous les postiers et les organisations syndicales à l'extension de la grève. Du coup, pour eux, tout le monde est concerné, tout le monde subit la politique de destruction massive de la Poste. Et donc, dès aujourd'hui, organisons la riposte. Dans nos centres, réunissons-nous en organisant des AG, en échangeant pour construire une large mobilisation sur le département. Seul moyen de stopper la direction départementale, parce que voilà, faut toujours comprendre d'où est-ce que viennent les décisions. Et là, le département, ça devient une échelle importante sur cette réforme de la Poste. Dans son acharnement contre les postiers et contre le service public. Donc il faut savoir que notamment le syndicat Sud a déposé un préavis de grève départementale illimité à compter du mardi 27 octobre 2015. Et aussi on invite toutes les auditrices et tous les auditeurs de Rébellion et de Radio Canu à se joindre à ce mouvement de solidarité pour les postiers et pour les postières. Il faut savoir que vous pouvez vous joindre tous les jours sur leur piquet de grève. Alors peut-être pas ce week-end, mais à partir de lundi prochain, en tout cas, pour aussi les aider, pour leur amener du café, pour leur amener des croissants, pour les soutenir, pour relayer leur lutte. Et c'est quelque chose qui est important aussi de montrer aux gens, alors que c'est un service qui est quand même tout un chacune et tout un chacun utilise assez régulièrement, de montrer qu'il y a aussi des gens qui vont les soutenir, qui suivent leur lutte. Et je trouve les suivre pas que derrière sa radio ou derrière son ordinateur, mais d'aller les voir, ça peut être quelque chose de très important et de très motivant. Et par exemple, si on prend juste la journée d'hier, du coup jeudi, il y avait 32 agents sur 48 tournées qui étaient en grève pour le 1er et le 5e arrondissement. Les agents, ils ont été reçus pour la première fois en 3 jours par la direction. Donc, faut imaginer ce que ça veut dire faire un piquet de grève à partir de 5h30 du matin pour être pas écouté par sa direction directe, des gens que vous connaissez en vrai, et qui font la serre d'oreille, que le directeur a refusé en bloc les négociations sur la base du préavis et a soumis à la signature un accord portant seulement sur les mesures d'accompagnement. Donc il y a quand même vraiment un rejet des revendications salariales de sa part de ces personnes, que c'est un service qui est utilisé par beaucoup de gens, et que peut-être ça peut vous poser des questions, lutter pour le droit du travail ou non. Mais en tout cas, là, c'est des gens qui du coup se mobilisent autour de ça, pour qui portent des valeurs, notamment dans ce qui est le respect du droit du travail et le respect d'un service public, et que ça vaut le coup d'aller les soutenir pour comprendre quelle est leur lutte, quelles sont leurs revendications, et notamment parce qu'ils portent un élargissement de la grève à l'ensemble du département le 27 octobre. On vous enjoint très très fortement à aller les soutenir et à relayer ce type d'information.
Et ouais, c'est d'autant plus important ce que tu dis, parce que là, il y a fort à parier qu'en fait, tous les médias après vont passer au truc de la fameuse prise d'otage de l'usager, et que ça va être des moments cool pour passer sur les piquets et dire, nous, on se sent pas pris en otage et on se sent concerné par votre lutte. On pense que la distribution du courrier doit rester un service public, et on veut pas que les gens qui nous distribuent notre courrier, dont on se sert tous les jours, soient des esclaves précarisés en concurrence avec d'autres précaires.
Et alors, du coup, si vous voulez faire une grève illimitée, ça veut dire perdre plein de jours de salaire. Et du coup, ils vont mettre en place dès lundi une caisse de grève sur un site internet. Alors, j'ai bien sûr oublié le nom du site internet.
Mais est-ce que ce serait pas Sud PTT 69?
Alors, je crois que c'est carrément une plateforme de Chrome, d'accord, machin. Mais du coup, peut-être, voilà, il suffit de regarder sur le site de la Sud PTT 69 dès lundi pour avoir l'adresse, pour pouvoir cotiser à leur caisse de grève.
En tout cas, voilà une raison concrète de passer et d'aller leur demander un petit truc en leur apportant le café. Comment on fait pour vous donner de l'argent?
Et voilà. Et donc, pour passer encore à d'autres mouvements qui, pour le coup, eux, pour l'instant, sont un peu en difficulté, on a envie de vous reparler de l'usine Centro Motor, qui se dirige vers une fermeture. Alors ça, c'est une usine dont on vous a parlé plusieurs fois, qui a été vendue, revendue et revendue, et dont aujourd'hui, le repreneur, Peter Lang, s'est retiré du projet industriel et donc a annoncé qu'il va demander la liquidation judiciaire de cette entreprise. C'est une entreprise qu'on suit du coup à Radio Cali depuis plusieurs années, qui est spécialisée dans les véhicules électriques, et qui manifeste du coup depuis 2-3 ans, parce qu'il y a suppression d'emplois sur suppression d'emplois, et que là c'est carrément la suppression de l'usine qui va arriver. On vous en avait déjà parlé début septembre, puisque le 11 septembre, les salariés de l'entreprise Centro Motors avaient manifesté devant le tribunal de commerce de Lyon, avant de se rendre à la préfecture du Rhône, où ils espéraient être reçus, et ils revendiquaient à ce moment-là des mesures d'accompagnement plus importantes que ce que propose la direction, parce qu'en effet, à ce moment-là, le tribunal avait voté un plan de suppression de 263 emplois, déposé du coup par la direction des ex-usines Steel. Et à ce moment-là, du coup, il y avait encore 120 postes qui étaient maintenus. Ce qu'on a su aujourd'hui, c'est que du coup, comme le repreneur de Centro Motors France, Peter Lang, s'est retiré du projet industriel, c'est que ça va être 380 emplois qui vont être menacés par le chômage, donc ça veut dire la totalité de l'usine qui va fermer. Alors, le repreneur, monsieur Peter Wang, a indiqué qu'il se retirait du projet dans lequel il était engagé depuis le 18 juin 2014. Et du coup, le plan de sauvegarde de l'emploi, PSE, homologué par la direction régionale du travail, se trouvait de facto caduc. Donc c'est une menace qui plane depuis plusieurs jours, mais il faut savoir que c'est des salariés qui sont globalement assez isolés, qu'il y a une mobilisation syndicale qui peine à se mettre en place, et que même s'il y a certains syndicats qui essaient de le mettre en place, globalement les gens ont jeté l'éponge, et c'est surtout des gens qui vont pas forcément retrouver d'emploi, donc il n'y a pas de plans qui sont mis en place pour qu'ils retrouvent de quoi se réorienter entre guillemets. Et c'est aussi une lutte qui, de par sa longueur, ou je sais pas tellement pourquoi, a pas tellement mobilisé. Du coup, c'est des gens qui sont assez isolés sur l'usine Centro Motors, malgré quelques mobilisations ponctuelles qu'on peut retrouver sur des piquets de grève ou voilà, sur des gens qui vont diffuser sur certains marchés, tout ça, pour sensibiliser à cette question-là. Et il faut savoir que, du coup, d'après les syndicats, c'est parce que M. Wang n'aurait pas versé 1 million d'euros nécessaire au financement du PSE. Du coup, ça veut dire au financement du plan pour retrouver du travail aux personnes. Et c'est aussi pour sensibiliser les gens sur le fait que il y a des vrais plans de licenciement qui se mettent en place en France, que c'est pas des questions ou non de bénéfices faits par les entreprises. C'est des logiques beaucoup plus larges aussi de précarisation des salariés, d'une destruction des CDI, des CDD et d'une volonté d'élargir les statuts d'intérimaires et des statuts extrêmement précaires. Et que même si c'est pas forcément la lutte la plus dominante en ce moment, c'est des questions auxquelles il faut faire attention. C'est souvent des gens qui sont aussi très isolés. Et notamment sur la question de Centro Motors, on a pu voir un peu à Radio Canu qu'il y avait finalement peu de mobilisation autour de cette question. Et moi, je trouve par exemple ça dommage. Et je trouve que c'est voilà toujours des choses auxquelles faire attention et essayer d'amener le soutien aux salariés qui essayent de préserver leurs emplois ou en tout cas vraiment de réussir à créer des structures annexes de solidarité pour des personnes en situation précaire.
Et bah du coup, sans transition aucune, moi je vais vous parler de ce qui se passe à Calais. Donc on fait c'est à propos notamment des demandeurs d'asile, ou plus précisément des migrants, parce qu'en ce moment-là, en ce moment, on n'arrête pas d'assimiler demandeurs d'asile et migrants pour dire qu'il y aurait des bons migrants qui seraient les demandeurs d'asile et des mauvais migrants qui seraient les gens qui migrent comme ça juste pour... Je sais pas, mais ils sont mauvais en tout cas dans le discours médiatique. Donc, qu'est-ce qui se passe à Calais ? Il y a une politique de gestion des flux qui est en place. Donc, quand je dis gestion des flux, enfin, le but c'est vraiment de pointer du doigt ce qui se fait, c'est-à-dire que on réfléchit plus en termes de personnes et pourquoi elles vont passer les frontières, mais en termes de flux migratoires et comment les endiguer. Donc là, on vous relaie des infos qui sont passées sur Passeurs d'Hospitalité sur Internet. Et qu'est-ce qui nous explique sur Passeurs d'Hospitalité, pardon, c'est qu'en ce moment à Calais, il y a une nouvelle politique qui est de prendre de force les empreintes digitales quand on arrête des migrants. Donc pourquoi cette logique d'empreinte digitale ? Parce qu'en fait, avec les politiques migratoires européennes, ce qui se passe avec les lois Dublin 1 et Dublin 2, les actes Dublin, c'est que en fait, quand on va arriver, quelqu'un arrive d'un pays extérieur à l'Europe, peut faire une demande d'asile. Sa demande d'asile est faite dans le pays où les empreintes digitales vont être prises pour la première fois. Ça veut dire, par exemple, si vous arrivez en France, qu'on vous arrête, que vous donnez les empreintes digitales, vous serez obligé de faire votre demande d'asile en France et vous ne pourrez pas faire une demande d'asile en Angleterre, en Suède, où vous voulez aller. Et donc ça gêne beaucoup les autorités parce que le problème, c'est que si des gens refusent de donner leurs empreintes, ils ne peuvent pas en fait les arrêter et sont obligés de les relâcher ou de les expulser. Ils peuvent revenir sans cesse. Donc là, ce qu'ils font, c'est qu'ils veulent obliger les personnes à donner leurs empreintes pour faire une demande d'asile en France, ou alors, du coup, prendre les empreintes de force pour les forcer en fait à disparaître du territoire français. Donc voilà, ça c'est ce qui est en train de se passer à Calais, sachant qu'aussi en même temps il y a toute une campagne de renforcement des contrôles et de pression sur les jungles, comme il y avait eu en mars et avril dernier des pressions sur les squats, que maintenant c'est aussi les gens qui vont apporter des soutiens aux migrants qui se font contrôler et qui prennent des pressions à coups de contrôle d'identité, de moyens d'intimidation, etc. Et que tout ça, ça s'est renforcé donc avec les histoires en ce moment de migration qui seraient massives hein, depuis qu'ils sont venus de la Syrie, mais aussi parce que mardi, il y a notre ami Cazeneuve qui allait visiter Calais. Alors du coup là, ils ont voulu faire des grands coups de nettoyage de Calais. Donc ce qu'ils font, alors ça c'est encore une nouveauté au niveau de la gestion migratoire, c'est qu'ils vont prendre les gens, les mettre dans des avions, les arrêter et les envoyer dans des centres de rétention ailleurs en France pour répartir les gens comme on répartirait de la marchandise et pour invisibiliser un petit peu ce qui se passe à Calais, sachant que ça a aucune logique puisque les gens qui sont à Calais sont pas là pour faire une demande d'asile en France, ils sont là majoritairement pour passer en Angleterre ou dans des pays nordiques comme la Suède. Et donc là, il y a 50 personnes qui ont été envoyées dans un centre de rétention à Nîmes, il y a 50 personnes encore qui ont été raflées à Calais et qui sont attendues dans un centre de rétention à Mesnil-Amelot, et apparemment il y a 50 places qui ont été réservées aujourd'hui dans un centre de rétention près de Toulouse. Donc voilà, on gère les gens comme on gère des marchandises, et faut les étaler pour pas trop que ça se voit et que ça prenne de place. Donc il y a un appel aussi qui a été fait par les associations en ligne pour lutter contre ces politiques, un appel qui rappelle que l'État a obligation d'héberger aussi les demandeurs d'asile, parce que en plus de cette gestion de flux en fait des gens qui ne veulent pas demander de l'asile en France et qu'on va criminaliser, ce qui se passe c'est que même les personnes qui demandent l'asile en France et qui devraient bénéficier en fait de droits, ça c'est la Convention de Genève, de droit à être hébergé, de droit à être accompagné dans leur demande d'asile, ça ne se fait pas puisqu'elles dorment à la rue, puisqu'elles sont expulsées des squats où elles essayent de s'abriter comme ça s'est fait à Bron, etc. etc. Donc voilà, et il rappelle aussi dans cet appel que en fait il y aurait besoin de très peu de moyens financiers pour aider ces gens, puisque c'est des gens qui sont de passage, qui savent aussi beaucoup s'organiser dans la galère, donc en fait c'est plus de l'aide matérielle, et que les gens ils s'organiseraient très bien eux-mêmes si on arrêtait de les pourchasser et qu'on faisait le minimum pour les aider, et qu'à côté de ça on a une gestion qui est criminalisante et une gestion de flux et pas une gestion de personnes.
Et dans le même ordre d'idée, il y avait eu du coup en juillet un projet de loi qui avait été passé sur sur les demandes d'asile. Donc là, elle est passée, donc ça va être tout réorganisé, la gestion des demandeurs d'asile en enlevant en fait des droits aux demandeurs d'asile, comme par exemple le temps pour faire un recours à la demande d'asile est diminué. Et là, en ce moment, il y a également un projet de loi sur l'immigration en général, donc pas que sur le droit d'asile, qui est passé au Sénat, juste là maintenant. Donc le Sénat, à majorité de droite, a adopté mardi ce projet de loi sur le droit des étrangers en le durcissant, sachant qu'il est déjà, c'est déjà un projet de loi qui durcit le droit d'entrée des personnes immigrées. Donc là, il propose de le durcir encore plus, ce projet de loi, établissant notamment des quotas pour chaque catégorie de séjour. Alors là, on ne sait pas encore ce qui va se passer, mais c'est possible que l'Assemblée nationale rétablisse la version du gouvernement. Bon, où il y a déjà des trucs comme le fait de créer des titres de séjour à durée variable, donc ce serait vraiment des trucs très très temporaires et plus précaires qu'avant, alors que c'est déjà très précaire. Donc à l'issue d'un débat houleux, il y a 176 sénateurs de droite qui ont voté en faveur de la version du projet de loi réécrit en séance et en commission. Une commission mixte paritaire va à présent être réunie pour trouver une version commune aux deux chambres. Et en cas d'échec probable, c'est l'Assemblée nationale ou la gauche qui aura le dernier mot. Mais bon, ça on ne sait pas encore. Et quand même, il y a Jean-Louis Masson, un sénateur de la Moselle, qui a lancé pendant ces grands débats « L'immigration d'aujourd'hui, c'est le terrorisme de demain ». Donc déjà dans les médias, on entend plein d'amalgames sur les trucs entre terroristes et immigrants, mais lui, il le dit carrément comme ça, quoi, en disant « Avant, les immigrés s'intégraient, maintenant, ils demandent des horaires de piscine séparés pour les hommes et les femmes ». Donc voilà, en jouant bien sur la peur de l'immigré qui n'arrive pas à s'intégrer. Super. Voilà, du coup, entre autres, comme truc vraiment craignos qui a été proposé lors de cette séance au Sénat, le Sénat a adopté un amendement prévoyant que le Parlement fixe des quotas donc pour chaque catégorie de séjour, à l'exception de l'asile, compte tenu de l'intérêt national, donc on pense bien à l'intérêt national. Le Sénat a réduit la portée de la mesure phare du texte, qui est la création d'un titre de séjour de 2 à 4 ans, qui serait délivré après un premier titre d'un an pour éviter aux étrangers en situation régulière des passages répétés en préfecture et leur donner de la stabilité. Les sénateurs ont prévu que ce titre de séjour ne serait délivré qu'aux titulaires d'un emploi et aux étudiants inscrits en master. Ils ont aussi étendu de 18 à 24 mois la durée de présence sur le territoire pour bénéficier des dispositions relatives au regroupement familial. et imposer que l'étranger qui souhaite s'installer durablement sur le territoire justifie d'une connaissance suffisante de la langue française. Sachant que c'est déjà très dur de pouvoir disposer des droits pour le regroupement familial. Et le Sénat a aussi eu l'idée de remplacer l'aide médicale d'État dont bénéficient les étrangers en situation irrégulière par une aide médicale d'urgence limitée à la prévention et à l'urgence. Sachant que l'aide médicale d'État de nos jours, c'est déjà vraiment un truc très précaire où ça permet d'ouvrir des droits à la santé, mais c'est déjà quelque chose de très limité. Donc là, ils veulent encore plus le limiter. Faut vraiment, il faut vraiment être en état de danger immédiat pour se faire soigner quand on est en situation irrégulière. Donc voilà, en tout cas, il y a des luttes à mener contre ces projets de loi qui sont encore pas encore adoptés.
Et du coup, sur les pistes des luttes à mener, moi j'ai oublié de vous dire que sur le site Passeurs d'Hospitalité, ils avaient un appel, vous pouvez retrouver une pétition en fait pour lutter contre ce qui se passe à Calais et demander des solutions plus humaines. À l'échelle de Lyon, il y a la permanence sans papier qui se tient une fois par semaine, si vous connaissez des gens qui sont en galère de papier, où ils peuvent aller se renseigner. Il y a aussi le collectif des étudiants sans papier, il y a RESF pour les gens qui sont à l'école, les enfants et les familles, et RUSF pour les étudiants. C'est toutes des infos que vous pouvez retrouver sur, une fois de plus, rebellion.info. Voilà.
Oui, vous êtes bien à l'écoute de Rebellion. Alors maintenant, on va changer un peu de sujet, mais on est toujours un peu dans la rubrique nationale. On va parler de Veolia. Et une fois n'est pas coutume, Veolia, on va pas parler que de Veolia, parce qu'on va parler aussi un peu de gaz de schiste. Puisque Veolia a signé, pardon, je parle pas dans le micro en fait. Puisque Veolia a signé hier, donc jeudi, avec une compagnie qui s'appelle Antero Resources, donc une compagnie spécialisée dans la production du gaz et du pétrole de schiste aux États-Unis. Donc a signé hier un contrat pour retraiter l'eau dans l'exploitation du gaz de schiste. Donc l'entrée en service de l'installation est prévue en 2017. L'exploitation est prévue pour 10 ans. Et voilà. Et donc alors ça c'est amené comment? Donc Veolia dit nous on va récupérer l'eau, on va retraiter l'eau et puis comme ça l'exploitant la compagnie là qui exploite le gaz va pouvoir réutiliser l'eau pour de nouveau faire sa fracturation hydraulique. Donc c'est super, on se dit mais c'est super, il y a une solution qui est trouvée à la pollution de l'eau et tout, super. Donc Veolia le clame haut et fort, crée une source durable d'eau et d'énergie pour les générations futures. Tous les mots-clés apparaissent dans cette phrase absolument magnifique. Mais en vrai, qu'est-ce que ça va être? Alors, ça va surtout être ce qu'on appelle un effluent industriel. C'est-à-dire, on dit effluent pour pas dire eau, parce qu'en fait il y a tellement de merde dedans qu'on ne peut pas dire eau. Donc du coup, ça sera quand même de très moins bonne qualité que l'eau prélevée à l'origine. En quantité beaucoup plus moindre, vu qu'une très grande partie de l'eau injectée pour la fracturation hydraulique reste dans les sous-sols. Et alors, évidemment, ils disent pas grand-chose sur les bouts de traitement. Parce que évidemment l'eau ils la traitent, mais après derrière ce qu'ils extraient de l'eau, toutes les merdes qu'ils extraient, ça on sait pas trop ce qu'ils vont en faire. Et donc voilà, et ça on sait pas trop. Et juste pour rappel, donc Veolia fait partie, ils sont un peu dans ce délire là de faire passer un peu la pilule par ce biais là, c'est à dire qu'il fait partie des mécènes de la fondation qui s'appelle Good Planet. Qui du coup a sorti un bouquin sur le gaz de schiste, le vrai du faux. Alors, même si ça a vocation à présenter un peu les trucs, il n'y a pas vraiment de prise de position directe. Et d'ailleurs, sur la présentation du bouquin, on peut lire « Si le lobby pétrolier présente une version tronquée de la situation, de l'autre côté, certains militants déforment aussi la réalité. » Oui. Et donc voilà, et donc c'est encore une fois de plus un des nombreux moyens. Alors il faut savoir que Veolia, il a signé hier, mais en fait ils sont sur le coup depuis déjà 2-3 ans. Et c'est une des techniques, évidemment, médiatiques pour faire passer un peu la pilule de ce gaz de schiste, et parce qu'on parle du traitement de l'eau, etc., parce que c'est un des points névralgiques. Il y a beaucoup d'autres points, qui sont notamment des points liés à la fracturation elle-même, des points avancés aussi qui sont très controversés, qui sont la création d'emplois, etc. Mais ça, par contre, on n'en entend pas du tout parler. Et donc voilà, c'était ce point sur Veolia et le gaz de schiste.
Bon, Bubu, on t'avait interdit de parler du gaz de schiste. Alors, tu nous as fait croire que tu allais parler de Veolia. Mais bon, allez, une petite page de musique.
Alger capitale, au commencement des 60s, les pieds noirs quittent le navire, les colons terratisent. 1961, période estivale, c'est la guerre d'Algérie et son festival. Et son lot de discrimination, de torture, d'exaction, tout un ramassis d'ordures. Quelques degrés au nord de l'équateur, je quitte l'Algérie française, un pincement dans le cœur. Voici mon parcours, Ahmed, fils de Mohamed, gangréné du corps par la misère du Maghreb. Par les meurtres, les soirs de couvre-feu, par la peur du soldat français qui ouvre le feu. Ouvre les voiles, petit paquebot libérateur, emmène-moi au pays des enfants. Loin de l'inactivité peur algéroise, loin de ceux qui transforment nos mosquées en paroisses. Basilique de Notre-Dame d'Afrique s'éloigne de mon regard lorsque les mouchoirs s'agitent. Verse une larme dans la Méditerranée, une goutte d'eau dans la mer contient la peine de ma terre tannée. Port autonome, cité phocéenne, un étranger parmi les autochtones. Direction Saint-Charles, gare ferroviaire, embarquement quai 7, voiture 6, wagon fourrière. Croise le regard des îlotiers, me foudroyant le cœur comme un tir de mortier. Reçois la flèche de la haine par les appelés du contingent. Des papiers, je suis français, monsieur l'agent. Chemin de fer, terminus, Paris, gare de Lyon. La métropole et son peuple par millions. Quelques dizaines de francs serrés dans un point, serviront de premier contact au café du coin. Moi qui cherchais de la chaleur, j'ai eu le sang glacé quand mes yeux rencontrèrent les leurs, couleur iceberg bleuté, bluffé par leur manque d'hospitalité. Ainsi sont-ils moralisateurs sans moralité. Démoralisé, je reprends le chemin, lequel me conduira dans les quartiers maghrébins. Nanterre, monticule de bidonville, habitation précaire pour mon entrée en vie civile.
Je ne laisserai pas les cœurs du...
Bon, alors c'était une chanson de Médine, mais on l'écoute un petit peu parce qu'on a trop de choses à vous dire.
Et bah ouais, mais comme on a plein de choses à dire, moi j'avais super envie de parler, ça, je pouvais pas écouter la musique. Je voulais parler de Pegida. Alors je sais pas si je le prononce mal parce que j'ai pas fait de classe européenne, je sais pas trop comment on parle en allemand. Mais pourquoi je voulais parler de Pegida? Parce qu'au début septembre, on a eu l'accueil des migrants, des migrantes. Enfin voilà, on peut moins parler des migrantes, ça avait l'air trop bien. Mais en même temps, et ben, il y avait Pegida. Donc c'est dans la super ville de Dresde en Allemagne. Je suis jamais allé, peut-être c'est très joli par ailleurs.
C'est mais très moche, c'était tout dégris par la Seconde Guerre mondiale, c'est tout noir.
Bon bah et ben en plus depuis le 20 octobre 2014, il y a un mouvement contre l'islamisation, enfin contre l'immigration islamique, c'est comme ça qu'ils l'appellent, qui manifeste tous les jours à 18h30 dans un parc de cette super ville de Dresde contre la politique d'asile du gouvernement allemand. Alors la première fois, ils étaient 500, et puis plus ça allait, ils augmentaient, et jusqu'en janvier 2015, ils se sont retrouvés quand même à 25 000. Quand même. Et suite à... Alors après, il y a eu des interdictions de la police, il y a eu bien sûr un petit peu un mouvement de réaction en face quand même pour essayer de baisser l'influence qu'ils avaient. Mais depuis septembre, et ben du coup, justement, ces images des migrants, enfin voilà quoi, on accueille les migrants à bras ouverts, ben ils sont en net regain. Et alors le 19 octobre, c'était l'anniversaire des 1 an, donc c'était ils voulaient faire une grande fête, ils vous attendaient 50 000 personnes. Alors ils se sont retrouvés quand même 20 000. Il y avait à peu près le même nombre de personnes de l'autre côté. Ça a été un petit peu des affrontements. Il y a quand même un blessé grave. Et après la manif, surtout, il y a eu des bandes de 100 à 300 personnes qui se promenaient dans toute la ville et qui tapaient un petit peu sur tout ce qui bougeait. Et alors, bah, parallèlement, bien sûr, on peut parler des centres d'accueil de réfugiés qui se font brûler. Il y en a eu quasiment 500 en 2015 en Allemagne. Et puis, bah, pendant ce rassemblement, il y a eu...
Alors, pour ceux qui ne sont pas dans les studios, c'est-à-dire qui sont devant leur radio, il y a la tête étonnée.
Non, mais 500, c'est beaucoup, quoi.
Ben, écoute.
Ouais, c'est flippant.
Je suis désolé. Mais attends, c'est pas tout, parce qu'il y a pire. Ou pas, je sais pas. Il y a eu un super discours d'un auteur de polar, dont je vais essayer de prononcer le nom, qui s'appelle Pirinchi. Et qui du coup a fait un super discours. Alors, je la fais courte, mais voilà. Bon, bah, les migrants sont des envahisseurs, ils vont injecter leur jus musulman, ils sont en train de pratiquer une ethnomorphose. Et donc là, jusque là, on disait que ça allait. Mais pire, il finit par nous dire que bon, bah, il y aurait des solutions, mais malheureusement, les camps de concentration ont été fermés, donc voilà. Et alors, bah, quand même, ça faisait un petit peu beaucoup, ça, même pour des partisans de Pegida. Donc, bah, là, il a été un petit peu, bah, les gens ont commencé un petit peu à râler, et il a été obligé d'arrêter son discours en pleine lancée. Et là, bah, il y a les dirigeants de Pegida qui font un petit peu des communiqués pour démentir ses propos et dire qu'il est allé un peu loin, que c'était un dérapage, que voilà, il voulait pas dire ça, mais que bon. Et donc du coup, voilà, Pegida, ça a l'air super fun.
Mais c'est assez fou, ces trucs, parce que justement, quand ils en parlent dans les médias, du coup, ça justifie vachement les politiques migratoires et ça les fait passer pour des trucs accueillants, en fait. Et ça, c'est complètement dingue, l'utilité que ça peut être, sans parler qu'il y ait une volonté politique que ces mouvements existent. Mais c'est fou comme ça... Enfin voilà, ces mouvements, ils viennent dire qu'on accueille en France et en Allemagne des migrants de bonne manière et qu'il faut lutter contre. Et je pense que le poids qu'ils peuvent avoir dans l'opinion, dans ce balancement idéologique et tout ça, c'est assez flippant. Enfin, moi, ça me fait autant flipper que leur existence même. C'est le fait qu'ils fassent passer l'Allemagne et la France pour des super pays d'accueil, quoi.
Alors, c'est bien, mais sans transition, on va partir sur les informations de Survie. Survie, association qui informe sur la France-Afrique. Donc là, ils ont mis un petit billet qui parle de Congo-Brazzaville. Parce que l'association Survie voulait dénoncer la réception au Quai d'Orsay du ministre des Affaires étrangères congolais ce mercredi 21 octobre. Et exhorte la France à suspendre sa coopération militaire avec un régime prêt à tout pour se maintenir au pouvoir. Parce que qu'est-ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville ? Eh bien, le dictateur Denis Sassou Nguesso tente de passer en force en faisant modifier la constitution pour pouvoir rester au pouvoir après 2016, sachant que ça fait déjà 30 ans qu'il est au pouvoir. Du coup, l'opposition a appelé à bloquer le pays si Sassou Nguesso ne retirait pas son projet de référendum prévu dimanche. Et depuis hier, la répression s'abat sur les manifestants, tandis que le pouvoir a fait couper les réseaux de téléphonie mobile et la diffusion de RFI. Il y a eu au moins 5 personnes qui ont été tuées par balle et des dizaines de personnes qui ont été arrêtées, et le bilan s'alourdit d'heure en heure. Alors, cela n'empêche pas Laurent Fabius de recevoir ce mercredi 21 octobre son homologue congolais, Jean-Claude Gakosso. Il ne s'agit, selon toute vraisemblance... Pardon. Moi, je me suis un petit peu foirée, mais... Du coup, l'idée, c'était de dire que c'était pas vraiment une médiation pour une sortie de crise... mais plutôt que c'était un rendez-vous pour servir la communication du régime. Et depuis cet été et la réception de Nguesso à l'Élysée, le silence diplomatique de la France a été largement interprété comme un accord tacite vis-à-vis des autorités congolaises. Et on peut rappeler qu'au Burkina Faso, il a fallu attendre que le peuple et l'armée régulière mettent les putschistes en déroute pour que la France annonce un acte concret, le gel de sa coopération. Merci la France-Afrique.
Et ouais, c'est d'autant plus classe que, enfin, si on remet une fois de plus avec le thème de notre émission, mais en lien avec l'immigration, il y a plein de demandeurs d'asile, et à Lyon notamment, qui viennent du Congo-Brazzaville parce qu'ils se font défoncer et torturer là-bas, quoi. Et du coup, d'un côté, on nous dit, les migrants, c'est craignos, machin, et de l'autre côté, on va soutenir les régimes dictatoriaux qui produisent les départs des gens du Congo notamment, quoi. Ah, je vais sortir en colère de la radio, moi.
Du coup, maintenant, on va passer au Pérou. Tout à fait, puisqu'il y a eu actuellement, il y a un nouveau projet.
Il y a la merde partout.
Et oui, c'est global. Hein. donc, le Pérou, il y a un nouveau projet minier, on peut dire meurtrier. Donc, le gouvernement a déclaré, donc là, le fin septembre, le 29 septembre exactement, dans 6 départements du sud du Pérou, un état d'urgence. Donc, cet état d'urgence a été déclaré suite à des affrontements qui a eu lieu entre une partie de la population locale et des forces de l'ordre. Donc, dans le cadre d'un immense projet de mine de cuivre. Qui s'appelle Las Bombas, qui est un projet porté par un consortium qui s'appelle MMG. Alors, je me souviens plus de ce que ça veut dire, mais je vous invite à aller sur Internet. Vous tapez MMG mine et vous allez tomber sur leur site absolument magnifique avec une grosse pelleteuse, et ils sont très fiers de présenter ça comme ça. Voilà. Et donc, bref. Et donc, il y a eu des affrontements donc meurtriers, puisque 4 personnes ont été tuées. Il y a eu plusieurs dizaines de personnes de blessées. Et donc l'état d'urgence, en fait, qui a été déclaré à ce moment-là, en gros, ça signifie donc les personnes n'ont plus le droit de se réunir. Le concept d'inviolabilité du domicile n'existe plus. Donc voilà, ça fait partie des nombreuses conséquences de cet état d'urgence. Et donc ça concerne une partie du sud du Pérou là où il y a eu tous les mouvements de contestation sur ce projet minier. Et donc alors ce mouvement de protestation existe depuis est devenu assez fort depuis le 25 septembre où des milliers d'habitants ont protesté contre ce groupe minier, l'accusant de vouloir construire avec l'autorisation du gouvernement mais sans les avoir consultés, donc une usine de traitement des minerais et un centre de stockage qui va avec, évidemment. Et donc tout ça à 4000 mètres d'altitude et avec l'éventualité que ça pourrait polluer les eaux et les cultures. Donc il y a quand même une personne du gouvernement péruvien qui a déclaré que le site minier a toujours privilégié le dialogue. Donc effectivement, voilà. Alors il faut rappeler quand même que ces conflits sont pas nouveaux en fait au Pérou. Parce qu'en fait le Pérou est un pays qui fait exploiter énormément ses ressources minières. Et donc, par exemple, il y a beaucoup de conflits sociaux liés à cette activité minière. Et en fait, il y a déjà 65 personnes qui ont trouvé la mort depuis 2011. Et pourquoi 2011 ? Puisque, en fait, tout ce qui se passe actuellement dans le sud rappelle très fortement ce qui se passe encore actuellement dans le nord, autour d'un autre projet sur une mine d'or qui s'appelle Conga. Et de la même manière, ça menace les réserves d'eau de la région. Et donc, depuis 2011, les populations locales là-bas luttent pour empêcher son implantation. Et la répression est extrêmement violente. L'état d'urgence a été décrété plusieurs fois. Et il y a eu un état d'urgence décrété en 2011, un autre en 2012, et pendant lequel il y a eu des manifestations où il y a eu également 5 morts. Donc c'est vraiment super violent en fait comme mouvement là-bas, et donc voilà. Donc c'était un peu pour rappeler un peu l'actualité qui se passe là-bas au Pérou.
Et moi, c'est vrai que je te trouve un peu manichéen, parce que j'avais entendu parler des mouvements comme ça en Argentine, et j'avais été rassuré quand même par les entreprises minières, parce qu'elles disaient, parce que du coup, ils retraitent l'or, en fait, c'est des méga mines d'or, mais il n'y a pas beaucoup d'or, c'est pas des pépites, c'est plus des poussières. Du coup, ils prennent la terre, et ils mettent des polluants dedans, dont du mercure, hein, pour retraiter cette terre et faire sortir les paillettes d'or. Mais j'avais été rassuré, puisque le mercure s'évapore au soleil, ok?
Oui, tout à fait.
Et donc, les eaux ne sont pas polluées.
Aucune crainte là-dessus.
Et peut-être que du coup tu pourrais arrêter d'être manichéen, quitter les sous-sols sud-américains et les sous-sols français du gaz de schiste pour nous emmener sous mer dans la Méditerranée.
Oui, peut-être un jour, peut-être.
Et du coup ça n'a rien à voir avec de ce que j'ai vu au Pérou sur du coup ces mines où du coup on voit tous les salariés complètement ivres morts à côté des mines parce que du coup de pas supporter leur affinité comme ça, ils se bourrent la gueule, et c'est quelque chose d'assez connu et ce qui est assez terrible, assez médiatisé pour contrecarrer leur discours, de montrer beaucoup de photos de gens très ivres pour décrédibiliser le discours, de dire que les salariés ont des conditions d'exploitation qui ne sont pas acceptables.
C'est le lumpen prolétariat, il est ingérable.
Du coup, ah oui, bah putain, là, c'est encore.
Mais oui, c'est pour ça, le sous-sol, le sous-marin, la Méditerranée.
Et
oui,
et parce que alors, beaucoup moins dramatique, c'est pour vous dire que, et ben, Internet, c'est pas que un truc flottant dans l'air, que. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'Algérie a été coupée en partie d'Internet. Pourquoi ? Parce qu'il y a un câble qui a été sectionné. Qui
Mais était Internet, entre... c'est des câbles.
Mais oui, Internet, c'est aussi des câbles. Et c'est un câble qui a été sectionné entre Annaba et Marseille. Et donc, ça s'est passé hier. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ben, c'est un câble assez important qui fait transiter énormément de flux de données d'Internet. Et du coup, ça a privé une partie de l'Algérie de l'Internet. Et il faut savoir que ce câble-là, il est entre Annaba et Marseille, mais il y en a plein qui existent entre les États-Unis et l'Europe, il y en a plein qui existent entre l'Angleterre et la France. Il suffit que ces câbles-là soient sectionnés, hein, pour que Internet soit fortement perturbé. Donc voilà, c'était pour rappeler aussi que tout ce qu'on vit à travers cette sphère web absolument diffuse a des points d'ancrage vraiment très précis et que c'est des câbles, c'est des machines énormes. C'est des points, et voilà. Et quand ça casse et quand ça tombe en panne, et ben ça marche plus. Et du coup, on n'a plus Internet et on peut plus aller sur rebellion.info, par exemple. Donc voilà.
Très bien, très bien. J'espère que c'était pas un appel au sabotage. Ne vous mettez pas en danger en plongeant au fond de la Méditerranée pour sectionner des câbles Internet.
Mais envoyez vos copains.
Eh bien, on va tout doucement se diriger vers l'agenda, finalement. Alors.
Oh, qu'est-ce qui se passe ce soir ?
Bah, ce soir, on va pas la refaire. Il y a Intermède qui invite à bien avec un légume 91 rue Montesquieu pour parler des pratiques autour du travail social et l'engagement dans le travail social. Mais moi, j'aurais parlé, par exemple, dans les prochains jours. Par exemple, le mercredi 4 novembre à 18h30 à la librairie Terre des Livres à Lyon, il y a Affichons le féminisme, une rencontre apéro pour fêter la publication par la revue Silence de l'affiche Sans date qui construisent nos luttes féministes aujourd'hui. Voilà, donc vous pouvez aller sur le site de Terre des Livres pour plus d'infos.
Ou sur le site de Silence qui publie cette affiche.
Ou peut-être même sur rebellion.info, non ? Pour accéder à l'agenda.
Et ensuite, toujours dans l'actualité féministe, il y a des stages d'autodéfense pour femmes et lesbiennes qui sont prévus les samedis 14 et 15 novembre en Ardèche à Ussel. Donc vous pouvez voir toutes les informations aussi sur le site d'autodéfense et autonomie.
Et demain après-midi, si vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez aller à la maison de la Mésopotamie, au 7 rue Mazagran, à Lyon 7e, à 16h. On vous attend pour une conférence sur le Kurdistan syrien avec Yassine Duman, qui, dans le cadre de la campagne des livres pour le Rojava, vient faire une présentation du Kurdistan syrien. Ce qu'il faut savoir, c'est que la dernière conférence de Yassine à Besançon a été perturbée par des nationalistes turcs, membres de Égalité et Justice. Alors, Égalité et Justice, c'est en gros un parti qui existe que dans l'Est de la France, et c'est un petit peu la vitrine de l'AKP, donc du Premier ministre Erdogan turc en France. Et alors, pour la faire courte, bah voilà, ils sont ultranationalistes, homophobes, antiféministes, réac. En gros, j'avais trouvé sur leur présentation, ils sont contre le positionnement libertin de la société française pour pouvoir revenir à la cellule familiale traditionnelle. Et donc, des militants se sont introduits pendant la conférence à Besançon et l'ont plus ou moins bordélisé, ont essayé de voilà, de mettre en avant que les Kurdes étaient des terroristes et parler des bienfaits du régime turc.
Mais comme de toute façon, ces questions, c'est super compliqué, même au-delà, et même si je trouve que c'est super important de contrer des potentiels nationalistes qui vont venir, on vous incite à y aller pour comprendre justement qu'est-ce que c'est que le Kurdistan syrien et qu'est-ce que c'est que le Kurdistan dans son ensemble. Et si jamais c'est quelque chose que vous maîtrisez complètement ou que peut-être vous êtes un peu trop loin, on peut toujours vous proposer d'aller à la Griffe ce même samedi à 15h. Donc samedi prochain le 24 pour aller écouter une discussion sur l'antispécisme. Du coup, l'antispécisme, c'est quoi? C'est du coup un courant qui essaie de poser des questions autour de la relation de domination, en tout cas de discrimination, entre les hommes et les autres espèces, donc les animaux. Donc qu'est-ce qui se passe entre, par exemple, la relation entre un homme et un renard ou un ours? Et cette discussion est portée par Brigitte de L214. Vous pouvez taper sur internet L214, tout ça. Dans n'importe quel moteur de recherche, vous trouverez des informations sur cette association qui, du coup, lutte contre les rapports de domination, en tout cas de discrimination, entre les espèces. Et vous pouvez, du coup, les écouter à la Griffe samedi à 15h.
Mais si, par exemple, le L et 214 sont bloqués sur votre clavier, peut-être que vous pouvez cliquer dans vos favoris sur Rébellion. Non, il me semble qu'on peut retrouver des infos dessus aussi, non?
On peut les retrouver, et du coup, c'est toujours le moment de rappeler que la Griffe, ça se trouve rue Sébastien Griffe. Par exemple, le 4, rue Sébastien Griffe.
C'est-à-dire à côté de Saxe Gambetta. Est-ce que l'agenda se finit là-dessus?
Bah, presque, mais il faudrait quand même pas oublier que le 31 octobre, il y a quand même la marche pour l'égalité.
En tout cas, pour la dignité et contre le racisme, qu'on va retrouver, mais ça à Paris. Mais du coup, on vous prévient à l'avance, puisqu'on est beaucoup avant le 31 octobre, pour vous dire que c'est une marche qui partira de Barbès à Paris à 14h pour rejoindre la place de la Bastille, et qui du coup est appelée par rapport à toutes les personnes qui ont été butées par les flics pour cause de racisme et pour tous les racismes en général, et pour porter du coup plus d'unité entre les personnes sur le territoire français en tout cas, et plus largement, mais en tout cas sur le territoire français, quelque chose qu'on connaît un peu plus.